va vous envoyer son RIB, Anaïs. Tout suite,
hein. je
10 000 euros. Donc, il y a la famille autour de vous?
Non, là, je suis au boulot, mais j'ai envie d'envoyer un message à la famille. Je suis conseiller bancaire.
Ah, 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 bah, ça
vous saurez quoi en faire ces 10 000 euros.
Ah bah ce sera bien investi. Je me permets, si je peux laisser un message à mes proches.
Allez-y, faites.
Et bah, je passe un grand bonjour à Odile, à mon frère et à tout ça qui m'ont aidé, qui sont là tous les jours pour me soutenir. Donc voilà, merci à eux et puis merci à vous parce que je vous écoute aussi tous les jours.
Félicitations, les 10 000 euros qui arrivent.
Salut, je me casse.
Bravo, Raphaël.
Et toi, Bruno Poncet.
Et vous pouvez continuer de jouer, bien sûr, d'envoyer roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16. Et demain, la roue tournera chez Estelle Denis. Dans Estelle Midi, on espérera qu'elle aura la main aussi chanceuse que notre Anaïs nationale. Dans un instant, on va revenir sur l'attaque du fourgon pénitentiaire, sur les morts, sur la brutalité, la sauvagerie de l'attaque, alors que des magistrats avaient prévenu de la dangerosité des commandos aujourd'hui tout autour du narcotrafic, avec la magistrate Béatrice Brugère. Elle sera avec nous.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Ben, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Cruchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story aujourd'hui. Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Joël Dagosséry, qui est coach de vie. Mehdi Guizard, qui est patron de PME. On va accueillir notre invité pour revenir dans le troisième temps, comme on vous l'avait dit, sur l'attaque hier, l'attaque mortelle du fourgon pénitentiaire.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Attaque du fourgon pénitentiaire hier qui a coûté la vie à deux agents. Trois sont grièvement blessés. Il fallait faire évader, extirper du fourgon pénitentiaire un trafiquant qui s'appelle Mohamed Amra, surnommé La Mouche, qui était emprisonné à la maison d'arrêt d'Evreux pour vol à effraction, mais il est aussi impliqué dans des affaires de règlement de comptes mortels autour du narcotrafic à Marseille. On va en parler avec la magistrate Béatrice Brugère.
Bonjour Béatrice Brugère.
Bonjour.
Quelles sont les premières leçons à tirer de ce qui s'est passé, de cette attaque particulièrement sanglante, même si la traque continue, donc on ne sait pas encore précisément qui a commis cette attaque, dans quel but, mais aujourd'hui, y a-t-il des leçons à tirer de ça?
Oui, bah, de toute façon, il y a toujours des leçons à tirer d'un drame aussi terrible, qui n'est certes pas prévisible, mais qui n'est pas complètement non plus illogique, compte tenu de la désorganisation que l'on connaît aujourd'hui, et en tout cas du manque de prise de conscience des enjeux de sécurité qui devraient être les nôtres par rapport à ce genre de profil. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'il y ait un avant et un après. Vous savez, je l'ai déjà dit sur un autre plateau, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans le commentaire. Ou alors bien sûr c'est le temps du recueil aussi, il y a quand même des familles qui sont endeuillées, et j'en profite d'ailleurs pour présenter toutes mes condoléances à la famille de nos collègues qui ont été assassinés, parce que c'est quand même ça, de façon froide et terrible, mais je crois que ce signal doit être pris à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une petite population de délinquants extrêmement dangereuse, extrêmement violent sur lequel on doit totalement adapter nos modèles de sécurité et de réponse pénale, y compris au niveau des prisons, des procédures.
Oui, d'accord, mais pardon, mais on nous explique depuis hier qu'il s'agissait certes d'un délinquant, mais ce n'était pas un gros bonnet. Il avait été condamné essentiellement pour des vols, il devait être poursuivi pour des homicides, mais pour l'instant il n'avait toujours pas été jugé, et donc on ne pouvait pas prévoir que cet homme pourrait faire l'objet d'une telle tentative d'évasion.
À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un gros bonnet. Cette catégorie, je ne la connais pas. Moi, ce que je connais, c'est des catégories, j'allais dire, juridiques. C'est quelqu'un qui a déjà un parcours de délinquance avéré, qui avait des procédures criminelles en cours. Donc, je ne connais pas la catégorie gros bonnet. Moi, je connais... Non, mais je vais dire, là où vous avez raison, c'est que des profils comme ça, il y en a plein.
Oui.
Là, vous avez raison. Donc, c'est à nous d'identifier sur ces profils de personnes qui sont quand même en détention. N'importe qui ne va pas en détention aujourd'hui. N'importe qui n'est pas dans des procédures, ce qu'on appelle JIRS, juridiction interrégionale spécialisée, qui sont des procédures de criminalité organisée pour des faits qui sont des faits criminels. Donc, c'est pas non plus un délinquant lambda. C'est pas vrai. Donc, et d'ailleurs, peut-être.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus,
enfin, je veux dire que là, c'est pas Pablo Escobar. Enfin, de la manière dont on le voyait. Dont on regardait ces condamnations, on n'a pas présenté Mohamed Merah comme étant à la tête d'un cartel de narcotrafiquants qui a fait main basse sur la ville, ou alors effectivement on s'est trompé, on a sous-estimé personnalité.
En tout cas, il faudra faire ce retex, comme disent les militaires, c'est-à-dire ce retour d'expérience, parce que c'est pas la première fois qu'on se sera trompé. Les faits démontrent quand même que derrière il y a une organisation criminelle de très haut niveau qui laisse penser qu'on a affaire au contraire à des cartels. Comme on le voit, cette scène que l'on a vue malheureusement en vidéo, puisque cette vidéo circule, est assez glaçante. Elle rappelle des scènes, au contraire, de cartels sud-américains. C'est-à-dire que vous avez des hommes tout en noir qui arrivent avec des armes de guerre, qui, de façon très froide et assez calme, hein, d'ailleurs, en moins de 2 minutes, assassinent directement comme ça, tirent. Je rappelle comme c'est des armes de guerre qui tirent à plus de 4 km, qu'autour, il y a quand même des passants, puisqu'on est à un péage, donc il peut y avoir des balles perdues. Absolument aucun, ils s'en fichent complètement. Ils ne laissent aucune chance aux personnes et ils vont chercher quelqu'un.
Et alors, tout est organisé. Derrière, il y a des voitures qu'ils abandonnent, qu'on a retrouvées.
Tout est très, très bien organisé. Et d'ailleurs, c'est tellement bien organisé que ça marche. Bon, donc, moi, je veux bien tout ce que l'on veut, mais il faudra quand même faire l'analyse sur ces profils-là et peut-être prendre conscience que là où on ne voit pas les choses, elles existent quand même.
Et qu'est-ce qu'on a pu faire de plus pour protéger ces agents pénitentiaires et empêcher cette évasion ?
Alors, je sais que le discours, c'est toujours dire il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro et vous avez raison, on ne peut pas dire, ah oui, il fallait que... Par contre, il y a quand même des mesures de sécurité qui peuvent être renforcées. Et je pense que vous avez déjà interviewé sans doute des gens de la pénitentiaire qui vous expliquent comment fonctionne aujourd'hui tout le système de sécurité, y compris en détention, y compris sur les fouilles qui, vous savez, ne sont plus systématiques.
Non,
y compris
c'est sur... interdit par l'Europe.
Oui, alors c'est pas totalement interdit, mais en tout cas les fouilles systématiques sont pas possibles aujourd'hui. Il faut changer ça, c'est terminé.
Il faut changer ça pour vous.
Bah pourquoi il faudrait pas changer ça?
Parce que c'est interdit par l'Europe.
Alors contentons-nous de dire c'est interdit par l'Europe et laissons faire.
On doit respecter des conventions.
Une chose, madame Brugère, que je comprends pas. 2 jours avant, ce mec-là scie ses barreaux.
Bien sûr, donc on avait.
Mais alors normalement on a une alerte. Excusez-moi, moi je m'y.
Alors, il y avait une alerte, puisqu'il y avait une procédure disciplinaire.
Non, mais il y a une alerte par rapport à sa,
le niveau,
à sa,
le
non,
niveau voilà, démonté de deux
à trois. Par rapport à sa faculté à vouloir s'évader.
Bien sûr.
Oui, d'accord. Donc, après, on me dit, non, mais.
Tout le monde
c'était
veut s'évader.
Une escorte. C'est, pardon ?
On vous a dit, tout le monde veut s'évader, non ? Oui. C'est un peu parfois.
En prison, je connais pas beaucoup de monde qui veulent rester, qui se disent, je vais rester bien au chaud.
Oui.
Quoique. Mais, à un moment, il faut peut-être se dire. Le type, il est condamné pour vol avec violence, je crois, pour cambriolage avec violence ou quelque chose comme ça. Il est suspecté dans une affaire
de mise
en examen d'homicide et de plusieurs homicides ou d'un homicide, je sais pas, à Marseille. C'est pas un petit pédigré.
C'est ce que je dis.
Non, mais ça veut dire que normalement, c'est vraiment des policiers en armes ou des gendarmes.
Non, c'est plus des policiers maintenant. C'est
mais normalement, mais justement, mais pour des gens comme ça,
alors,
pour des personnes comme ça, alors qu'il a, il a essayé de s'évader deux jours avant. Le directeur de prison appelle ou je sais pas comment ça se passe ou le juge appelle en disant attendez.
Pourquoi le magistrat ne va pas en prison déjà
alors, certains magistrats vont en prison. Oui. Vous voulez dire derrière les barreaux ou
non.
Ça peut arriver, mais non, mais sérieusement,
c'est plus heureusement.
Au lieu de déplacer le détenu avec des moyens considérables,
il y a plusieurs questions. D'abord, la question la plus importante, c'est ce qu'on appelle le renseignement pénitentiaire. C'est-à-dire que comme en détention, vous avez quand même des profils plus ou moins dangereux et qu'on n'a pas encore réussi à construire des établissements qui seraient, j'allais dire, beaucoup plus spécifiques selon les profils, ce que nous demandons depuis très longtemps d'ailleurs, au passage, parce qu'aujourd'hui, on mélange quand même beaucoup de gens différents en détention. Il faut absolument aujourd'hui aller plus loin et identifier ces profils dangereux pour qu'ils soient mis dans des établissements sécurisés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, premièrement. Deuxièmement, en détention, vous savez qu'on circule. Les gens circulent en détention. Pour ceux qui croient que les gens sont enfermés en détention, ce n'est pas vrai. Les détenus peuvent se promener en détention. Et d'ailleurs, ils peuvent tellement se promener qu'ils se parlent dans la cour, etc. etc. Donc ça, tous ces sujets-là sont extrêmement importants.
Il y a aussi la circulation des portables, la circulation des colis, de l'équipe.
Donc vous avez également la prison est un réceptacle où on peut lancer en permanence des colis qui sont utilisés, etc. Tout ça, il faut que ça cesse. C'est-à-dire que pour ces profils dangereux, il faut qu'on ait des prisons qui soient beaucoup plus hermétique. Aujourd'hui, on nous parle de brouilleurs. D'abord, ils ne sont pas partout, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut des détecteurs téléphone, parce qu'en fait, lors de l'audition...
Pourquoi on ne les a pas, ces détecteurs de téléphone?
On va vous dire que ça coûte cher, ce n'est pas le choix qu'on a fait, etc. C'est toujours les mêmes excuses. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, il faut que ça change. Qu'on tire les leçons de ce qui est arrivé aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions. De l'argent, il y en a eu, utilisons-le pour les bonnes choses. On a de l'argent aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas, puisqu'on a un garde des Sceaux a réussi quand même cet exploit de faire augmenter de façon substantielle le budget.
Alors disons-nous les choses, c'est pour acheter les téléphones qui sont acceptés, tolérés, puisqu'on parle de tolérance en prison, c'est pour acheter une paix sociale.
Oui, mais tout ça, ce que j'appelle un choc aujourd'hui de sécurité.
Alors, madame, vous en tant que secrétaire général du syndicat Unité Magistrat, vous le savez, mais monsieur tout le monde ne le sait pas.
Oui, mais c'est pour ça que j'en parle.
Ne sait pas qu'un mec qui est condamné à 10 ans de prison, à 5 ans de prison ou à 1 an de prison peut rentrer un téléphone portable et continuer à gérer son marché à partir de l'intérieur.
Exactement.
Vous le savez, mais les gens ne le savent pas.
C'est exactement ce qu'on dit les magistrats devant le rapport qui est extraordinaire. Peut-être qu'on en parlera après sur le narcotrafic, parce qu'on est complètement dans la cible du sujet d'aujourd'hui, il me semble. On est complètement dans la cible. Il disait, en prison, ces profils-là continuent comme si de rien n'était, le trafic, mais pas que le trafic, il faut relire les auditions, elles sont très intéressantes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils peuvent même commanditer des tentatives d'assassinat. Donc, si vous voulez.
De leur cellule.
Exactement, puisque nous avons des écoutes. Donc, pour revenir à votre question, qui est celle du renseignement. Du renseignement pénitentiaire, qui est absolument essentiel. C'est-à-dire, à qui on a affaire? C'était votre question, est-ce que c'est un gros bonnet, pas un gros bonnet? À qui on a affaire? Est-ce que cette personne est dangereuse? Vous avez raison, ici c'est barreau, il essaye de partir. Manifestement, il a déjà un vrai profil de délinquant. À qui on a affaire? Le renseignement pénitentiaire, je le rappelle, puisque nous étions encore le seul syndicat à être pour, Christiane Taubira était contre. On vient de loin. Aujourd'hui, c'est grâce à Jean-Jacques Urvoas qu'il a existé, qu'il se développe, parce qu'il y a eu les attentats. C'est-à-dire que ce pays
ne se réforme qu'à partir de
drames,
de crimes
et de morts.
Dans l'émotionnel.
Oui, alors parfois c'est bien.
Mettez-vous devant le micro, madame Brugère.
Excusez-moi, parfois c'est bien parce que ça fait avancer.
Enfin, c'est terrible.
Mais je trouve ça totalement regrettable parce que la moitié des propositions, et on n'aura pas le temps de toutes les...
Elles
sont là. Les acteurs de terrain, ils le disent. Certains syndicats, comme notre syndicat, n'arrêtent pas de sonner l'alarme en disant « faites ci, faites ça ». La pénitentiaire s'était mise en grève sous Nicole Belloubet parce qu'ils voulaient des armes. Vous savez qu'ils ne sont pas armés. Bon, etc., etc. Et sur le transport, par exemple, des extractions, ils n'ont pas de véhicule blindé.
Non,
et pourquoi,
on l'a vu, hein, c'est une simple camionnette.
Pourquoi ils ne mettent pas le statut de DPS pour des raisons de moyens? Parce qu'en fait, le statut de DPS, ça veut dire faire appel aux forces de sécurité intérieure qui sont submergées.
D'accord, mais madame,
voilà.
Alors justement, on va continuer la discussion dans un instant avec des questions de Joël Dagosséry, de Bruno Poncet, de Mehdi. La France peut-elle faire face au trafic de drogue, à la violence des trafiquants de drogue, sans qu'on bascule dans un narco-État? Parce qu'on commence à évoquer avec cette attaque ce qui s'est passé en Amérique du Sud, le Mexique en particulier. À tout de suite dans Les Grandes Gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal. Olivier
Truchot. RMC Story. Nous sommes avec la magistrate Béatrice Brugère pour évoquer justement la violence maintenant des trafiquants de drogue, ce qui s'est passé hier au péage dans l'heure d'Incarville avec les surveillants pénitentiaires qui ont été tués. Donc Bruno Poncet, Joël Dagosséry, question à madame la juge Brugère.
Moi j'entends parler de narco-État, mais y a-t-il pas un moyen d'arrêter le narco-État si on arrête le... Si à un moment donné on légalise, si vous légalisez à un moment donné, en vrai, quand j'entends les discours, ils basculeront sur la coke et tout, enfin c'est pas le même public et c'est pas aussi facile d'accès. Mais en fait, à un moment donné, vous avez bien vu, enfin, il y a dans certains pays où ça a été un petit peu dépénalisé, délégué, enfin, ou légalisé, enfin, la criminalité a baissé.
Non. Alors, en fait, non. On cite en exemple le Québec. Et en fait, quand on regarde les chiffres, en fait, non, ça n'a pas marché. Puisqu'en fait, il y a eu en parallèle, toujours, parce que c'est un marché, il faut quand même dire les choses, ça rapporte beaucoup d'argent, il y a toujours une consommation importante. Et en fait, d'ailleurs, c'est le Premier ministre qui le dit à demi-mot, en réalité, c'est assez stable. Donc ça n'a pas marché.
Mais est-ce qu'il y a des règlements de compte
Malheureusement.
Vous commencez l'illégal.
Non, mais ça n'enlève pas le trafic parallèle. Ça n'enlève pas le trafic parallèle. Et ce qu'il faut comprendre quand même aujourd'hui, c'est l'état des lieux du trafic. Parce que tout le monde parle du trafic. C'est quoi ce trafic? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on voit aujourd'hui une explosion de la cocaïne. La cocaïne est devenue, c'est une marée. Une explosion, des drogues de synthèse. Ouais. Vous avez des centaines de drogues de synthèse aujourd'hui, on le voit en Belgique, qui sont référencées et qui ont des laboratoires de fabrication. Donc en fait, on a des nouvelles drogues comme l'ICE, je ne sais pas si vous connaissez, qui est de la cocaïne rose, qui vous rend un zombie en quelques minutes, qui arrive sur Papette, sur ces zones-là. Donc bref, aujourd'hui, vous avez une diversité de drogues qui fait que votre proposition, malheureusement,
Alors, on dépense beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, les policiers sont en première ligne, on fait des opérations place nette XXL, et puis finalement il y a toujours plus de drogue qui arrive sur notre territoire, il y a toujours plus de règlements de compte, ils sont de plus en plus jeunes, il y a de plus en plus de victimes de ces règlements de compte qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les règlements de compte, on a vu ça à Nîmes, à Marseille, donc sincèrement on se dit que c'est une impasse cette guerre.
Moi, je pense que ce qui est perdu, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on perd du temps. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on perd du temps pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une certitude.
Qu'est-ce qu'on a perdu plus ?
Alors,
pour que la France ne devienne pas un narco-État.
On n'est pas quand même dans un narco-État, il ne faut pas exagérer.
Les Pays-Bas, regarde ce qui se passe aux Pays-Bas.
Tout à fait.
Certains commencent à dire que c'est un narco-État maintenant.
Tout
les
à fait.
Pays-Bas.
Mais on en a des frémissements. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a des territoires et on a certaines actions qui pourraient laisser penser qu'on y va tout droit. Donc, d'où la nécessité de réagir. Moi, je suis une battante, donc je ne crois pas qu'on a perdu, mais je pense qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps et surtout qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Le rapport qui vient d'être rendu hier par la commission des lois...
Qui est très critique sur ce qui est fait aujourd'hui quand même.
Oui, il est excellent parce qu'en fait, c'est une feuille de route pour un champ de bataille. C'est-à-dire qu'il met en 35 propositions une vision global, c'est-à-dire que on n'est pas juste sur un petit segment, vous savez, de la petite procédure, de la petite affaire ou du fait divers. Il part du début, c'est-à-dire comment la drogue rentre dans notre pays. C'est ça qui est important. C'est-à-dire comment on la stoppe à l'arrivée. Comment, justement, on travaille au niveau international parce que c'est un problème international, c'est pas qu'un problème français. Donc là, vous avez des propositions qui sont incroyablement intéressantes. Ça veut pas dire qu'on va stopper.
Donnez-nous deux, trois propositions de choses qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire.
Par exemple, une des parties les plus importantes, c'est que nous sommes inondés de drogue par les dom-toms, vous savez, par les territoires, par exemple Cayenne ou des endroits comme ça. Là, il n'y a pas de contrôle à la hauteur des enjeux. Les mules passent en permanence. Moi, il se trouve que je suis allée à Cayenne il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, de mes yeux vus. Il y en a tellement, il n'y a même pas, si vous voulez, de scan, on ne fait pas les choses comme il faudrait. Donc, il faut sécuriser. C'est pareil pour les ports, c'est pareil en haute mer. Il faut absolument travailler avec de la coopération internationale. Il faut travailler avec les pays comme Dubaï, comme les Émirats arabes. Donc, il y a la coopération européenne, il y a la coopération internationale, mais il y a la sécurisation des ports et des lieux d'entrée. Au niveau des, par exemple, des avions et des transports, il faut être absolument extrêmement répressif, extrêmement sécurisé. Et ça, on a les moyens techniques de le faire. La technologie, elle existe aujourd'hui.
Pourquoi on n'a pas la volonté politique ?
Je suis pas politique aujourd'hui. Je vous dis.
Non, mais parce que Gérald Darmanin, il en a fait un de ses combats.
Un cheval de bataille.
Moi, j'invite tous les citoyens, d'ailleurs, à aller lire ce rapport. C'est assez clair.
Il est disponible.
Il y a 35. Il y a 35 préconisations et on voit très bien comment elles se déclinent. C'est-à-dire qu'on part de l'arrivée, de la fabrication. Comment on peut stopper, ralentir? C'est un rapport de force, vous savez. Si on voit que on peut passer des kilos et des kilos, les opérations Place Nette, en vrai, elles sont intéressantes parce qu'elles sont visibles pour les gens, mais elles sont déjà intégrées dans les pertes du calcul économique, j'allais dire, de ces organisations criminelles, parce que pour quelques kilos saisis, ils en font passer des tonnes et des tonnes, donc ça n'a aucune importance. Ça ne fait pas mal. Donc il faut faire mal au départ. Et puis après, excusez-moi, je finis juste, tout ce rapport, en fait, prend chaque étape pour mettre le doigt sur nos failles, sur nos faiblesses et essayer de les, j'allais dire, de se réarmer. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, la bataille, elle n'est pas perdue si on arrête de perdre du temps et si on prend les bonnes décisions.
Joël Dagosséry.
Tout à l'heure, on a reçu le représentant syndical des agents pénitentiaires et qui nous expliquait, en fait, en gros, qui accusait un peu les magistrats de trop incarcérer. Puisqu'il y avait trop de détenus pour trop peu de surveillants pénitentiaires, parce qu'on sait qu'il y a un manque d'effectifs. Je voulais savoir ce que vous en pensiez justement de ça, mais autre chose aussi, quand on revient sur le profil de M.
Amra,
on voit qu'il a été déscolarisé à l'âge de 15 ans, et qu'au début, il a été exactement incarcéré pour des choses de rodéo sauvage, enfin des choses assez, entre guillemets, banales, avant de tomber dans quelque chose de plus gros. Ma question, c'est qu'en est-il aussi de la volonté? Alors, ok, si on va moins incarcérer, ok, mais qu'en est-il aussi de la volonté qu'on met sur le fait, sur la réinsertion? J'ai vraiment l'impression qu'il y a, ça c'est mon impression, vous allez me dire si c'est vrai, qu'il n'y a pas une force qui est mise pour que ces personnes-là, telles que M. Amra, ne reviennent pas dans nos prisons une fois, 13 fois, enfin 13 fois.
Alors, bon, d'abord, je ne connais pas ce profil. Je le découvre comme vous aujourd'hui, enfin hier, depuis hier. Donc, je ne pourrais pas vous dire quel est son parcours de délinquance exactement. Sur le fait que les magistrats incarcèrent trop, c'est faux. C'est pas qu'on incarcère trop, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Donc, du côté, et ils ont raison, du côté de l'administration pénitentiaire, le travail est impossible.
120%.
C'est ça, en fait. Donc, pour eux, il y a trop de monde. Mais c'est pas parce que. C'est-à-dire qu'ils disent oui, mais vous nous mettez trop de monde parce qu'on n'a pas assez de place et on n'a pas assez de moyens. Donc, je peux comprendre leur discours, mais c'est pas un discours qui correspond à la réalité criminelle. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, on est complètement dans la moyenne européenne. On incarcère pas beaucoup. Et je vais vous donner un autre chiffre. Pourquoi on n'incarcère pas beaucoup? On condamne par an à entre 120 et 130 000 peines de prison ferme ou assorties de ferme. Combien il y a de gens en détention? 67 000. Ils sont où les autres? Donc, il ne faut pas dire qu'on incarcère trop. Et là-dessus, on ne compte pas les détentions provisoires.
Moi, je dis pas justement. Donc, bien au contraire, moi je dis pas que vous incarcérez.
Non, mais c'était pour répondre à madame. Ouais. C'était pour vous faire comprendre qu'en fait le problème, et c'est les mêmes qui critiquent les conditions de détention, qui refusent d'ailleurs qu'on construise des places de prison.
Et ensuite, il y a la réinsertion, rapport au profil.
Alors, sur la réinsertion, vous avez raison, c'est extrêmement important, mais là, il faut prendre les choses à la racine, c'est-à-dire sur la justice des mineurs. Sur la justice des mineurs, on est en très grande difficulté aujourd'hui. Et il faut que vous sachiez, madame, qu'on incarcère très peu les mineurs et que pour des faits très graves. Donc, je ne sais pas quelles sont ces informations.
Vous le regrettez, vous, personnellement ? Vous le regrettez, ça, personnellement ?
Moi, je suis pour un changement total de logiciel. Je pense qu'un mineur qui commet un fait grave, il faut qu'il rencontre tout de suite la sanction, quelle qu'elle soit.
Merci, madame.
Et sur les ultra-courtes peines, c'est ce que nous, on propose pour les mineurs. Peines. Ultra courte peine, c'est 7 à 14 jours. D'autres pays le font et démontrent que ça marche parce que ça stoppe le parcours de délinquance.
Voilà.
Donc, en fait, vous savez,
il y a une petite tape dans l'épaule et va à la maison.
Il y a une mesure, il y a une mesure qui a été dramatique et pour la réinsertion qui est extrêmement importante. Il y a une mesure qui a été dramatique, qui a été la suppression sous Christiane Taubira de la révocation du sursis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la progressivité, qui est pas inintéressante, de dire on va y aller doucement jusqu'à ce que la personne comprenne, ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir plein de mentions au casier, plein de sursis qui ne sont pas révoqués. Parce que sous Christiane Taubira, elle a fait supprimer la révocation du sursis. Or, la révocation du sursis, elle est intelligente dans la pédagogie de la sanction. Elle dit, la première fois, t'as une chance, la deuxième fois peut-être encore, mais la troisième fois, ça tombe. Vous voyez, c'est assez simple comme pédagogie. Donc, ça n'existe plus.
Il y a vos collègues magistrats marseillais qui avaient pris la parole devant le Sénat en disant, on s'en souvient, on en a longuement débattu, on est en train de perdre la guerre.
Oui, tout à fait.
Parce qu'ils avaient dit, les narcotrafiquants ont énormément d'argent.
Énormément.
Les narcotrafiquants ont des armes qu'on n'a pas forcément face à eux. Et les narcotrafiquants ont une motivation, justement, qu'aujourd'hui, on n'imagine pas. Donc ça, c'en est l'illustration de cette guerre qu'on a du mal à mener ou qu'on est en train de perdre.
Oui, je pense que c'est une démonstration que, ils n'ont peur de rien, que leur rapport de force, il existe, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'aller tuer la force publique ou ceux qui représentent l'État. Donc, on a déjà eu d'autres exemples. J'espère que celui-ci restera très isolé, évidemment. Mais oui, je pense que, en fait, aujourd'hui...
Parce qu'ils se sont fait recadrer, vos collègues magistrats, pour avoir dit ça.
Oui, parce que, en fait, si vous voulez, le ministre, il estime qu'il a donné beaucoup de moyens. Et c'est vrai. Et donc,
les moyens ne suffisent pas, il faut aussi...
voilà, et donc c'est difficile quand on est un homme politique d'entendre la guerre est perdue, alors que vous ayez donné des moyens. Mais ce n'est pas qu'un problème d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un problème de moyens, c'est un problème de procédure, c'est un problème de sécurité, c'est un problème d'application de la loi, c'est un problème de, si vous voulez, d'exécution de la peine, etc. etc. Alors, donc voilà.
Oui, parce qu'un jour, vous nous aviez dit ici, moi ça m'a marqué, je m'en souviens encore, vous avez dit que 40% des peines de prison prononcées ne sont pas appliquées. Non, c'était l'inverse. Seulement 40% des peines de prison est appliquée.
Oui, alors j'ai plus les chiffres, mais en fait, très peu de peines de prison,
Là, c'est le grand public ne le sait pas. C'est-à-dire que le grand public entend aux informations une peine de prison et en fait, elle n'est pas appliquée.
Elles ne sont pas appliquées dans un délai de 5 ans, en vrai. Parce que, en fait, ce qui marche aujourd'hui, c'est les comparutions immédiates.
Oui. On l'a vu notamment au moment des émeutes. Mais Gérald Darmanin, lui, veut faire culpabiliser le consommateur. Il l'a dit encore ce matin. Il dit quand on prend un rail de coke ou on fume un joint, on est responsable de ce qui se passe ensuite avec ces règlements.
Et Dupond-Moretti qui a dit les consommateurs ont du sang sur les mains.
Ça peut fonctionner, ça, la culpabilisation du consommateur?
Moi, je suis un peu plus mesurée, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui consomment sont des gens qui sont dans l'addiction. Donc oui, on peut les culpabiliser, d'accord. Mais il faut déjà quand même...
Il y a 4 ou 6 millions de Français qui consomment, ils ne sont pas tous addicts. C'est aussi la consommation du samedi soir.
C'est du plaisir.
C'est la consommation du samedi soir.
Il y en a où ça ne dérangerait pas.
Je pense que aussi, ça masque aussi une défaillance de l'État qui est celle de la santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les structures sanitaires, d'abord de prévention, parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse la même prévention que pour le tabac, au passage, hein, parce que le tabac, on a quand même réussi à faire une vraie politique de prévention. Aujourd'hui, le discours ambiant, c'est de dire que quand même le cannabis, c'est pas très grave. Or, c'est faux, parce que l'hybridation du cannabis aujourd'hui fait que le cannabis, avec son taux de THC, est devenu une drogue très, très, très nocive en vrai pour la santé publique.
C'est fini. Ah. Merci Madame Brugère d'avoir été avec nous.
RMC, les grandes gueules.
Tout à l'heure, les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, la radio et la télé. Comment intervenir dans les GG? Ça, vous le savez, c'est le 32-16. Et vous serez avec Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire-géographie, l'ancien policier du Raid, Bruno Pomard, et Étienne Liebig, l'éducateur de Seine-Saint-Denis.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h30.
Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC. Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC partout. Tout le temps. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
mais il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. En ce moment, envoyez Roux par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer Roux et pas argent, par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC. Dès que vous entendez,
envoyez Roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS max.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner. Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
C'était ce matin sur RMC.
Arnaud, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Éric Zemmour, le président du parti Reconquête.
Oui, ah, enfin. Ça va nous faire du bien, un invité feel good. La météo est pas dingue, les infos sont déprimantes, mais heureusement, Éric Ladéconne va nous redonner un peu le sourire. Rigolo, hein. Rigolo. Ah, voilà, tant de légèreté. Sa liste n'arrive pas à séduire les électeurs. Et en même temps, là, le discours vire au burlesque. L'autre jour, il y a Jean Messia, qui est sur la liste Reconquête, qui a carrément comparé l'immigration à, je cite, « importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle » avec, je cite toujours Jean Messia, « Mokhtar Ben Koutskous ». Donc, évidemment, là, à côté de ça, Jordan Bardella, on dirait le fils de Yannick Noah et Christiane Taubira, quoi. Ça vire au tragique. Vraiment, c'est ridicule. On dirait une parodie de Jean-Marie Le Pen dans Le Bébé de Chaud. Le chamelier, n'est-ce pas? Appelez-moi Dieu, tu dis n'importe quoi. Le couscous, n'est-ce pas? Écoutez, ta gueule, c'est n'importe quoi. Alors, on se souvient tous de l'attaque contre Éric Zemmour la semaine dernière. Enfin, l'attaque. L'attentat. Une femme lui a jeté un œuf. Et lui et Sarah Knafo avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas vivre dans un pays où on ne peut se défendre que quand on est mort. Éric Zemmour peut mourir si on lui jette un œuf. Donc, Apolline, si jamais il devient agressif pendant l'interview, je vous ai amené une boîte de 6, elle est en régie.
D'accord.
Et si jamais il est trop agité, vous la secouez un peu devant lui, comme ça, ça le calme. Alors, la dernière sortie politique d'Éric Zemmour, vous savez ce que c'était?
Non.
C'était il y a deux jours, il était à la foire à la fraise de Sainte-Bazeille. Et Éric Zemmour a côtoyé, d'après la presse, le cortège coloré et festif d'une immense tarte à la fraise. Et il a rencontré, c'est véridique, la confrérie de la tarte géante. Il est prévoyant, hein. Comme il va s'en manger une aux européennes de tarte géante, eh ben, il a voulu avoir l'avis des spécialistes.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Mais l'actualité bonjour. Est un peu lourde, oui, aujourd'hui, on peut le dire, mais Arnaud...
On va bien rigoler. D'ailleurs, l'actualité est tellement lourde que j'ai failli passer à côté du choc politique de la semaine. Ah. Elisabeth Borne envisagerait de se présenter à la présidentielle en 2027. J'ai vu ça dans la presse.
Oui.
Authentique. Votre meuf va y aller, Manu. Donc, vous vous souvenez d'Elisabeth Borne, hein, la quilleuse d'acquis sociaux avec sa clope électronique, la papotueuse. Elisabeth Borne, c'était le Vatican. Si elle fait une fumée noire, un acquis social est mort. Si elle fait une fumée blanche, un nouvel acquis social est désigné pour mourir dans 2 ans. Donc elle envisage de se présenter. J'espère qu'elle va l'annoncer à la télé. Française, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République. J'actionne donc l'article 49.3. Allez hop, je suis élue. Ça va aller très vite. C'est quand même fou, quoi. Il suffit que les sondages de Raphaël Glucksmann soient vaguement bons pour que n'importe qui se voie un destin électoral. Alors, à propos de Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste aux européennes a regretté d'être exclue du débat télévisé qui aura lieu le 23 mai entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Mais bon, faut comprendre les organisateurs. Ça fait quand même vachement longtemps que quelqu'un s'est pas dit « Oh !» Faut qu'on pense à inviter le candidat socialiste au débat. Ça n'arrive plus. Le PS, c'est un produit des années 90. C'est comme les boys band, c'est comme les peluches Kiki, c'est comme les trolls en plastique qu'on mettait sur les crayons. Vous vous souvenez de tout ces trucs-là ?
Bien sûr.
Et puis Glucksmann, c'est un vieux, il a 44 ans. On va pas le mettre avec les jeunes, Attal et Bardella. Ça va être gênant, c'est un peu comme les darons qui débarquent à une soirée, quoi. Hey, hey, yo, wesh, ça va les Jones? Ça parle d'Europe, les fratés. Ouais, moi aussi, je suis comme vous. J'aime l'Europe et j'aime le rap aussi. Yo, yo, l'Union Européenne. Yo, yo, c'est une solution pérenne, les frères. Signe de Jules Ferry, Abdullah. Wesh les jeunes.
Non maman, pas le moment. Le gouvernement Arnaud a testé un système d'alerte sur nos téléphones.
Oui, vous l'avez reçu. Moi je l'ai eu. L'alerte qui fait un bruit pas possible. Bip bip. Avec un mais c'est affreux. Avec un message du gouvernement qui dit non en fait c'est rien, c'est un test. Désolé, mais ça a fait flipper tous les gens qui l'ont reçu. Encore un truc pour faire des crises cardiaques à des retraités. C'est toujours ça de pension en moins inversée. J'espère qu'ils vont pas l'activer en cas d'attente à ce machin. Imaginez en cas d'attaque terroriste, t'es caché dans les toilettes, tu te forces à pas faire de bruit et bip. C'est le gouvernement qui signale directement aux terroristes tout est caché. Il n'y avait que nous pour faire ça. C'est du pur Jean Castex. Les étrangers, ça a dû les surprendre. Ils ont entendu l'alarme. What the fuck is that? It means there is an attentat. Oh, il y a eu un attentat, c'est pour ça. L'état des rues dans Paris, des terroristes ont tout fait exploser. Non, c'est normal. Ça, non, c'est Anne Hidalgo qui essaye d'embellir la capitale.
Arnaud, le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé un accord de licence avec l'américain Novavax.
Oui.
Pour la commercialisation en commun d'un vaccin contre le Covid-19.
Enfin, Cocorico, ça y est, on l'a. J'imagine le pauvre chercheur était enfermé dans son labo depuis 5 ans. Les autres lui disaient, Gérard, tu veux venir déjeuner? Non les gars, je peux pas, je dois bosser sur ce putain de vaccin, il y a une pandémie. Alors justement, il faut qu'on te dise au sujet de la pandémie, non, arrête de me déconcentrer, j'ai du travail. Alors bon, on l'a laissé faire et enfin, il a sorti son truc, mais peut-être un peu tard. C'est comme si France Télé ouvrait 400 vidéoclubs dans tout le pays pour concurrencer Netflix. C'est comme si France Télécom lançait un Minitel à écran plat pour concurrencer Internet. C'est comme si Charles dégainait un préservatif la première échographie. C'est pas idiot, si vous voulez. Mais il y a un décalage.
Il a dit non.
Il y a un décalage.
Arnaud, le film d'Artus, un petit truc en plus, a atteint les 2 millions d'entrées en moins de 2 semaines.
Exploit. Ça, c'est la musique du film. Donc, un film sur le handicap avec des comédiens réellement atteints de handicap. C'est mieux que de prendre des comédiens qui jouent des handicapés mentaux. Parce que là, ça ferait polémique. Vous imaginez Gilles Lelouch et Pierre Ninet jouer des trisomiques, par exemple. Ça ferait scandale. Et c'est vrai que les films sur les personnes handicapées, bah, ça cartonne toujours en France. On a eu Intouchable, La Famille Bélier, Les Tuches. Et la société aime bien ça.
Non.
La société aime bien, ça soulage les consciences vu qu'on fait rien pour eux. Donc une fois de temps en temps, on peut bien payer 15 balles pour aller les voir au ciné.
C'est pas faux.
Mais Artus a dû pousser un coup de gueule car les marques de luxe ont refusé d'habiller ces acteurs handicapés pour la montée des marches. Alors aujourd'hui, il y a une marque qui a accepté, mais au départ, elles avaient toutes dit non. Et c'est scandaleux. D'abord parce que ça les dérange pas d'habitude, Gucci et Chanel, d'habiller des personnes souffrant de retard intellectuel. Hein. Tous les anges de la télé-réalité sont en marque de luxe. Et après, il y a des personnes handicapées qui sont plus faciles à habiller que d'autres, c'est vrai. Philippe Croizon, par exemple, c'est simple. Non, mais tu peux lui faire faire une belle montée des marches très facilement. Tu le mets dans un tote bag, hop, sur l'épaule de Gisèle Bündchen, et un parfum de glamour et d'élégance flotte instantanément sur le tapis rouge. On adore le style. Et là, à demain.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez C'est tous les jours de manche en podcast.
Sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie. Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer. Ben, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30. 9h pour Apolline Matin.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
Moi, je fais bien la différence entre les radios qu'on entend et les radios qu'on écoute. Et RMC, on l'écoute.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
L'actualité du jour, et c'est bien sûr l'attaque d'un fourgon pénitentiaire hier qui a causé la mort de deux agents qui transportaient un détenu qui a réussi à s'échapper. Une attaque ultra-violente dénoncée par toute la classe politique et notamment par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui évoque des agents abattus comme des chiens par des hommes pour qui la vie ne vaut rien. Des mots très forts. Rémi, la France est sidérée après cette attaque.
Oui, sidération d'abord au sein même des rangs des personnels pénitentiaires. Jérôme Massip est le secrétaire général national du syndicat pénitentiaire des surveillants et il évoque des collègues chaos debout face à un déchaînement de violence jamais vu en 35 ans de carrière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également revenu sur ce drame ce matin pour dénoncer la barbarie avec laquelle ces hommes s'en sont pris à ces agents de sang-froid. Il appelle à faire le procès de cette sauvagerie qui touche notre société, avant de s'en prendre également aux consommateurs de drogue. Il faut savoir que l'évadé d'hier est un trafiquant de stupéfiants. Et selon lui, on ne peut pas à la fois pleurer les veuves et les orphelins du péage de l'heure et continuer à fumer tranquillement son joint. Chacun est responsable. Réaction également dans l'opposition. Le président du RN, Jordan Bardella, dénonce une véritable sauvagerie qui s'abat chaque jour sur la France. Alors qu'Éric Ciotti, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, évoque lui la pire des barbaries.
Alors, l'État est-il désormais dépassé par l'ultra-violence ? Fred Hermel.
Oui, bien entendu, l'État, mais nous sommes tous dépassés par l'ultra-violence. Il n'y a pas que tout le monde, voilà, dans notre vie quotidienne, on est dépassé par cela. Vous savez, j'ai vécu longtemps en Espagne et j'ai connu beaucoup de latino-américains. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui avaient fui le Mexique, qui avaient fui même l'Argentine, Venezuela, parce qu'ils en avaient marre de la violence. Et on est en train de retrouver en France cette ultra-violence qu'il y a toujours et qu'il y avait là-bas en Amérique latine. C'est-à-dire où tous les témoignages hier de gens spécialistes de ces questions de transfert de prisonniers, de policiers, etc., c'est ce qui s'est passé hier est du jamais vu en France. On a franchi une étape. Nous sommes entrés dans une nouvelle société. Une société a remplacé l'autre. C'est la fin de l'insouciance. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une société de l'ultra-violence où l'agression ou la mort peut être pour chacun d'entre nous au coin du métro, au coin de la rue. Et ça, franchement, je ne pensais pas, moi qui suis né en 70, voir ça de mes yeux.
Alors après, c'est un métier risqué, agent pénitentiaire, on le sait. C'est plus risqué que...
Il faut se rappeler que ce n'était pas arrivé depuis la mort d'un agent pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions depuis 1992.
Depuis 30 ans.
Oui, mais la question, c'est pas simplement ce qui s'est passé hier, c'est que dans chaque secteur de la société, il y a une augmentation de la violence. Même la simple violence est verbale au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est plus violent. Tout rapport humain est plus violent qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et sincèrement, je suis né en 70, je voulais terminer cette phrase. Je suis né en 70, je ne pensais jamais voir ça dans mon pays qui s'appelle la France. On est en train d'entrer dans une nouvelle époque.
Après, ce qui est sidérant, c'est qu'on a tous vu ces images, hein, c'est le manque d'affect, le sang-froid. Je veux dire, les tueurs arrivent et ils tirent, il n'y a pas d'hésitation.
Pour ceux qui n'auraient pas vu les images, on le comprend, mais c'est vrai qu'on les voit tirer à bout portant sur les agents de pénitentiaires, à bout portant donc avec des armes de guerre, au milieu du trafic. Ça se passe au péage et on voit les camions, les voitures, un bus qui continue à passer sur les côtés. Quoi.
Et des gens qui se mettent à plat ventre dans le bus. Quoi. Et aussi, ce qui est terrible là aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, où il y a des gamins, enfin des ados, qui sont dans le bus, et qui plaisantent, qui rigolent en train de voir... C'est-à-dire que même la perception de la violence...
Je pense qu'ils ne se rendent pas compte.
Mais oui, mais ça, c'est grave. Si à 15-16 ans, tu ne te rends pas compte que la mort de quelqu'un, c'est grave, c'est qu'il y a un problème.
Est-ce que l'État peut encore faire quelque chose, Mathilde Caillard? On se dit, en voyant effectivement ce qui s'est passé hier, que... L'État est totalement impuissant, quoi.
Je pense, la première chose qu'on peut dire quand on voit ces images qui sont vraiment tragiques, c'est évidemment apporter toute sa compassion, tout son soutien aux victimes, aux familles des victimes et à l'ensemble du personnel pénitentiaire. Après, il faut évidemment le dire, tu l'as dit, ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de meurtre et heureusement, de personnel pénitentiaire dans l'exercice de leur fonction et de leur travail. Je pense que c'est un peu triste aussi de s'intéresser à la condition de travail du personnel pénitentiaire uniquement quand il y a un mort. Parce qu'en fait, toute l'année, ça fait des mois et des mois et des années qu'ils ont des revendications très claires de choses qui pourraient complètement améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Parce que, faut pas oublier non plus ce qu'est l'objectif de la prison initialement. C'est aussi de nous protéger en tant que société, à la fois de mettre hors d'état de nuire les personnes dangereuses, mais aussi pour imaginer une réinsertion future ensuite, une fois qu'elles sortent de prison. Et en fait, si jamais les conditions ne sont pas réunies pour que les personnels pénitentiaires ne peuvent pas exercer leur travail dans des bonnes conditions, en fait, ça pose un vrai problème. Et ensuite,
il y a beaucoup de réactions qui disent on aurait pu mettre un fourgon en plus, des agents en plus, mais en fait, le problème, c'est que on manque d'agents, on manque de moyens, et en fait, personne ne pouvait savoir concrètement.
Après, la réponse, elle n'est pas tout le temps sécuritaire. Par exemple, j'ai lu les revendications, par exemple, directement des syndicats. Ils expriment, en fait, ils disent j'en ai marre parfois, notamment quand j'ai des interactions entre des prisonniers et des juges. En fait, parfois, ils doivent faire des déplacements de 300 km pour juste une signature. En fait, la signature, pourquoi pas les juges se déplacent aussi, ils peuvent se déplacer dans les prisons directement pour faire ce genre de choses. Donc il y a quand même des choses à la marge qui sont pas sécuritaires et qui représentent peu de coûts. Un visioconférence, ça coûte rien.
En vrai, une visio, une signature électronique, attends, Fred, elle a raison.
Je suis d'accord, mais après, et là je vais prendre la défense des gens qui sont détenus, quand tu te défends devant un juge, il faut que tu sois présent. Je veux dire, si ça se fait par visioconférence, c'est pas la même chose.
Pour les procès.
Là, c'est un interrogatoire, tu vois. Ils auraient pu le faire en visio.
Un interrogatoire. Je suis désolé, les droits de la défense, les droits de la personne qui est mise en examen, qui est.
Moi, je pense d'abord à la sécurité des gens.
Je suis d'accord avec toi, mais il faut être en face à face par rapport au juge, avec le juge. Sinon, on sait très bien, tu ne te défends pas de la même manière, tu ne t'expliques pas de la même manière à travers un écran. Ça me paraît évident.
Thierry Moreau, c'est vrai qu'on se demande quoi faire aujourd'hui pour éviter que ça se reproduise et pour éviter de revoir de telles scènes, même dans d'autres secteurs de la société.
Il y a deux choses qu'on pourrait déjà faire. C'est d'abord les moyens. Aujourd'hui, la justice, même si des efforts considérables ont été faits ces dernières années, on est quand même à un budget deux fois inférieur à celui que l'Allemagne consacre à sa justice. Donc ça veut dire qu'on a un problème avec l'argent qui est mis sur ce secteur-là. Alors, c'est de l'argent qui se voit pas, c'est de l'argent qui est peut-être pas glamour à dépenser, mais c'est de l'argent qui peut sauver des vies. Donc c'est important d'y croire. Et deuxième chose, ce qui m'a frappé en écoutant depuis deux jours justement ceux qui connaissent le mieux le problème, c'est-à-dire les surveillants pénitentiaires, ils disent plein de choses. Alors déjà au-delà de l'émotion, et on est évidemment à leur côté parce que leurs déclarations sont toujours au début très empreintes d'émotion, mais quand on les écoute, on attend des choses incroyables. Par exemple, faire une extraction judiciaire pour aller signer des papiers de divorce. Non, comme vous le disiez, il y a la signature électronique.
Bien sûr.
La dotation des gilets lourds, il n'y a pas assez de gilets lourds. Mince.
Tu veux dire gilets pare-balles?
Gilets pare-balles lourds. Parce qu'il y a
les médecins n'avaient pas de blouse pour le Covid.
Ils avaient des gilets pare-balles qui peuvent arrêter des balles de 9 mm. Je parle d'un témoignage d'un agent pénitentiaire. Mais pas les armes de guerre. Donc, un gilet pare-balles lourd. Notre agent expliquait que pour avoir une bombe lacrymogène quand on est surveillant pénitentiaire, c'est tout un processus administratif. Il faut construire des prisons. On a été capable, pour les JO par exemple, de construire des bâtiments en réduisant le temps de recours possible de l'installation et de construction de bâtiments. Pourquoi ne pas adopter le même système pour construire des prisons dans des endroits très reculés, où il n'y a pas beaucoup de population. Pourquoi ne pas aussi réfléchir aux QHS? On les a supprimés en 81.
Les quartiers de sécurité.
Voire créer des prisons de haute sécurité. Mmh. C'était il y a 40 ans. Notre société, elle a évolué en 40 ans. Donc peut-être qu'il faut réfléchir. Je ne suis pas forcément pour, mais peut-être qu'il faut réfléchir à tout ça. Tout ça pour dire qu'il y a des solutions, mais il faut des moyens. Il faut aussi distinguer. Il y a 60% des détenus qui ne posent aucun problème, mais il y en a 40% aujourd'hui qui posent de très gros problèmes. Et pour cela, on n'est pas armé. Le personnel pénitentiaire n'est pas armé aujourd'hui, dans tous les sens du terme, le mot armé, pour faire son travail. Et c'est terrible. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé d'eux en disant que c'était un métier de première ligne,
oui,
qui était un peu sous-estimé et sous-évalué dans notre société. Métier difficile, dangereux et mal payé. Eh bien, on en a eu une illustration là. On peut ne pas rentrer chez soi le soir quand on est un surveillant pénitentiaire, et ça, c'est pas possible.
Alors, on est avec Fred, qui est un ancien membre du GIGN, qui était déjà intervenu d'ailleurs dans Estelle Midi. Bonjour Fred.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour.
Et j'imagine, Fred, que vous êtes extrêmement touché par ce qui s'est passé hier, évidemment. On se pose cette question, est-ce que l'État est dépassé par l'ultra-violence? Vous, en tant qu'ancien membre du GIGN, est-ce que vous dites, c'est mort, on ne peut plus rien faire?
Alors, c'est mort, non. Alors, heureusement que c'est pas mort, hein. Sinon on quitte le pays.
Non, mais quand on voit ce qui s'est passé hier, on peut se poser des questions.
L'État est dépassé, mais depuis longtemps. Depuis Sarkozy, il est dépassé. Et Sarkozy nous a fait espérer beaucoup de choses. C'est peut-être lui qui nous a le plus plombé le pays, presque. Moi, oui, l'État est dépassé à partir du moment déjà où vous mettez Dupond-Moretti, ministre de la Justice, alors qu'il a défendu le pire terroriste que la France ait connu. Déjà, par rapport aux victimes, par rapport à...
Oui, mais là, c'est autre chose. Quand on est avocat...
Estelle. Julien, pourquoi l'État est dépassé? Alors oui, il faut des moyens, j'entendais là, il faut des moyens, ça c'est évident, mais il faut surtout des hommes, avec du courage. Hein, je dis courage parce que je suis à l'antenne et que je me retiens de dire d'autres mots, mais il faut surtout du courage en fait. Bizarrement, vous avez...
C'est quoi avoir du courage?
Mais du courage déjà, c'est pas être la marionnette de l'Europe déjà, à vouloir absolument qu'il y ait un gars par cellule dans les prisons, etc. Il faut mettre des vraies sanctions. La question qu'on peut se poser, c'est ce mec-là, il a eu 15 condamnations.
Ouais.
Combien d'années de prison?
Là, il y en avait encore qui devaient être jugés. Donc,
il n'était pas condamné pour les faits les plus graves, pour lesquels il y a
15 condamnations, combien d'années de prison?
Il avait déjà beaucoup de condamnations entre l'âge de 11 et 14 ans.
Mais qu'est-ce qu'on fait, Fred?
Il a 30 ans, ça m'étonnerait qu'il ait fait 15 ans de prison.
D'accord, mais ok, et qu'est-ce qu'on fait? On met en prison à vie? La peine de mort n'existe plus en France, donc qu'est-ce qu'on fait?
Oui, bah alors là, il va peut-être falloir y réfléchir.
Non, mais là, c'est un autre débat, là. Et on peut pas parler à chaud comme ça, c'est pas possible.
Mais on peut pas parler à chaud. Moi, il y a beaucoup de choses qui me chagrinent dans ce qui s'est passé. Déjà, c'est que les images, déjà, elles ont été diffusées.
Je suis d'accord. On les a diffusées nous aussi, en se posant beaucoup de questions.
Ceux qui diffusent ces images-là, franchement, il faut les punir sévèrement parce qu'ils ne se mettent pas à la place des familles. Hein, il y a des veuves et il y a des enfants qui vont revoir ces images. En fait, ils vont se mettre à la place de leur père et de leur mari. Mais c'est insupportable.
Fred,
en fait.
Je vous le dis, on a nous-mêmes diffusé ces images. On s'est beaucoup posé la question. Mais en fait, on s'est beaucoup posé la question. Et on s'est dit, en fait, ces images, elles ont déjà été diffusées partout. On ne les aurait jamais diffusées si on avait été les premiers. Mais le fait qu'elles sont diffusées partout font que... On a diffusé ces images, mais je vous le dis, on s'est posé beaucoup la question. On a eu un débat là-dessus. Donc je comprends évidemment.
Ça montre l'horreur.
Bien sûr.
Je pense que c'est du.
Il y a un moment où effectivement il y a, je pense, de la pudeur et de la compassion à avoir envers les familles. Ça c'est évident. Et c'est en ça que ça me gênait aussi. Mais après, ces images, elles sont révélatrices de quelque chose, et je pense qu'il est bon aussi que la société voit à quoi elle peut être confrontée, à quoi elle est confrontée aujourd'hui et à quoi elle peut être confrontée dans le futur.
Moi, ce qui me fait un peu peur aussi dans les images que j'ai vues, alors moi, j'ai réussi à avoir les images bien avant vous, j'imagine, parce qu'on a des réseaux où on diffuse des images, voilà. Ça reste entre nous, ça. Ces images-là restent en interne, Jean-Amoré. Ouais. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est qu'ils utilisent les mêmes modes opératoires que le GIGN, par exemple, utilise sur des GoFast. D'où ils sortent ça, là. Voilà. Les reportages que vous voyez à la télé, les compléments d'enquête, etc., il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Ils se nourrissent de tout ça pour peaufiner leur
mentalisation. Ils ont pas besoin des compléments d'enquête pour apprendre. Ouais.
Il suffit de regarder des séries. La dernière scène, on dirait... Là, franchement, ce qu'on a vu hier, c'est la dernière scène de la série BRI, qui se passe sur un péage avec des mecs qui sont arrêtés et tout. Donc, en fait, je veux dire, ils n'ont pas besoin de regarder 24 heures avec la police, je veux dire, pour savoir comment on attaque un fourgon, quoi.
Après, voilà, vous parliez de moyens, effectivement, hein, du 9 mm contre de la 7,62. Bah, ça fait pas le poids. Hein,
Ouais, mais on va pas mettre des Kalachnikov aux gardiens de pénitentiaire, enfin, genre aux agents pénitentiaires.
Mais vous avez les mêmes munitions avec d'autres armes que ce qu'utilise la police et la gendarmerie.
Si je peux me permettre d'intervenir, Estelle, il a fallu attendre, et je pense que Fred va pas me démentir, il a fallu attendre, et c'est dramatique, les attentats de 2015 et les attentats qui ont suivi, pour que, enfin, les services de gendarmerie, je parle des brigades territoriales, ceux qui sont à la campagne, etc., les policiers en général, soient armés d'armes automatiques et de véritables gilets pare-balles de façon systématique aujourd'hui. Il a fallu attendre la réalité terroriste pour que, enfin, les policiers et les gendarmes soient aujourd'hui correctement
équipés. Malgré tout, toujours une longueur d'avance.
Oui, mais c'est comme le dopage dans le sport.
L'État est long à réagir.
Oui. Merci en tout cas Fred d'avoir été avec nous, ancien membre du GIGN. Notre invité sur ce débat, c'est Vincent Le Dinert. Il est secrétaire national de l'ensemble des personnes de l'administration pénitentiaire, le SNEPAP-FSU. Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle et bonjour aux chroniqueurs.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Vincent. J'imagine que, évidemment, c'est aujourd'hui vous êtes en deuil, évidemment, parce que deux de vos collègues ont été tués hier. Est-ce que aujourd'hui vous vous dites qu'on est totalement dépassé par cette violence? Est-ce que vous dites que il faut vous armer plus lourdement? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme constat?
Excusez-moi, déjà, j'ai la gorge assez nouée quand même d'en parler. Je suis avec mes collègues. Du Prev, parce que je suis sur le Mans actuellement et qui côtoie et qui travaillait avec les collègues qui ont été abattus, assassinés. C'est de la barbarie ce qui s'est produit hier. Exactement. Ils n'étaient pas venus juste pour évader le détenu, ils étaient venus pour tuer les surveillants et faire sortir le détenu. Donc laissez-moi avoir une pensée émue d'abord pour les femmes seules et pour les enfants.
Oui, on entend votre émotion, hein. Vincent, l'un des gardiens de la paix était papa de deux jumeaux et un autre, sa femme était gardien de prison, bien sûr, et l'autre en fait avait son épouse qui était enceinte de cinq mois.
Écoutez, les premières constatations qu'on peut faire, puisque je suis avec les collègues du Prège, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a pour nous du vrai et du faux. Il y a des moyens qui ont déjà été demandés depuis plusieurs années. Je vais juste parler de moyens d'abord. Les véhicules, on a tous des véhicules blancs estampillés administration pénitentiaire qui se voient à 3 km.
Oui.
Qui sont faits de tôle et de plastique comme un véhicule lambda. On a D'accord. des Kangoo, des fourgons, c'est de la tôle, du plastique.
Ah, mais c'est pas blindé vos fourgons?
Ah non.
C'est le Kangoo du quotidien et c'est le trafic, excusez-moi de prendre des noms de marques, mais on s'en fiche.
Oui.
Ce sont des fourgons classiques, adaptés avec un gyrophare et à l'intérieur cellulaire pour transporter les détenus. Ça n'est pas blindé, ça n'est pas banalisé, et c'est une des premières demandes et revendications des collègues, et ça depuis longtemps, pour ne pas être ciblé, qu'ils aient des véhicules déjà balisés. Voilà. Donc, c'est les premières revendications. Quand, il y a 10 ans, les collègues ont récupéré les extractions judiciaires, c'était dévolu avant à la police et à la gendarmerie, vous le savez tous, vous en avez parlé.
Ouais.
Ils avaient deux fois plus de moyens que nous, on a d'allouer au ministère de la Justice pour s'occuper des extractions judiciaires. Il y avait deux fois plus d'effectifs, police, gendarmerie confondus, qu'on en a nous dans le ministère de la Justice. Et on a de plus en plus de détenus. Qui dit plus en plus de détenus, dit de plus en plus d'extractions judiciaires. Donc forcément, le compte n'y est pas.
C'est 600 par an, je crois, hein, c'est ça? Mais
est-ce que ce serait possible, plutôt que de faire une extraction judiciaire, effectivement, de faire plus de visio, on va dire?
Mais des visios, là je vous prends un exemple ce matin, je suis devant la prison. Si vous entendez des crépitements, c'est des pneus qui sont en train de brûler. Ce matin, ils ont voulu sortir un détenu. Nous, on a bloqué, on a refusé. Pourquoi? Parce que c'est le magistrat qui a refusé la visioconférence et non la personne détenue. Donc vous rendez compte? Le magistrat peut se déplacer, on peut se le faire en visio. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire en visio. Et les magistrats,
les portes de prison leur sont grandes ouvertes. On appartient au même ministère, ils peuvent eux-mêmes se déplacer. Quand j'entendais tout à l'heure, oui, il faut le droit, la défense, l'avocat. Quand vous passez en commission de discipline les détenus, eh ben, ils demandent à leur avocat de venir en prison. Eh ben, quand ils font une visioconférence, on peut respecter le droit à la défense. L'avocat se déplace en visioconférence avec la personne détenue. Et il sera face à son juge, et il sera défendu comme tout le monde sera défendu, et le droit sera respecté. Donc déjà, il y a énormément de choses qu'on peut changer. Mais ça, il faut avoir du courage politique. Et pour l'instant, le courage, je ne le vois pas trop.
Mais malheureusement, il est possible qu'avec ce qui s'est passé hier, il y ait des changements. Justement, c'est terrible qu'il faille en arriver là pour avoir des changements. Mais les choses vont forcément bouger. C'est là, impossible avec ce qui s'est passé hier, Vincent, d'en rester comme ça. C'est pas possible.
Il faut un état-major de l'administration pénitentiaire, parce qu'on a des problèmes de tous bords, de tous niveaux. Nos prisons explosent. On a des Jeux Olympiques qui arrivent. On ne sait même pas où est-ce qu'on va pouvoir mettre des personnes. Si jamais il y a des fêtes de délinquance sur Paris pendant les Jeux Olympiques, on ne sait même pas où est-ce qu'on va pouvoir mettre les détenus. On a déjà 150% de taux d'occupation. On a des matelas au sol à ras-bord. Le quotidien dans les prisons, c'est dur. Les collègues en extraction judiciaire, c'est dur. Ils n'ont pas leur temps de repos. Ils finissent des missions à 2h du matin. On leur demande de partir à 7h. Comment voulez-vous que ce soit cohérent? Il n'y a rien de cohérent. Il faut un état-major, il faut tout poser sur la table. Et construire des places de prison, c'est bien beau, mais plus on en construit, ça fait 16 ans que je suis dans cette administration. J'en ai connu des plans de construction. Mais plus on construit de prison, plus on les remplit.
Mais
y a peut-être aussi des gens en prison qui n'ont pas leur place.
Oui, c'est vrai.
Excusez-moi de vous dire.
Oui, qui pourraient du bracelet, bien sûr.
On a des services de psychiatrie, services de soins qui sont à la dérive. On préfère enfermer en prison des personnes qui sont malades.
Et ça crée de la délinquance en plus.
On ne peut pas les soigner.
Oui, mais il y en a beaucoup, et malheureusement, les places en psychiatrie, il n'y en a plus non plus. Donc en fait, c'est ça. C'est que l'État est dépassé par.